Je suis Cécilia Creuset et je suis une des cofondatrices de May, qui est un service de santé digitale qui s'adresse aux parents et aux futurs parents. J'ai lancé May il y a 5 ans avec deux associés et avant ça, j'avais passé une petite dizaine d'années dans l'entrepreneuriat social sur un sujet qui est l'inclusion numérique, donc comment aider les personnes en précarité à la fois à accéder et à savoir mobiliser le numérique dans le cadre de leur insertion sociale et professionnelle. Donc, en gros, un fil rouge qui est plutôt autour de comment est-ce que, enfin, autour de l'impact en réalité. On a lancé May avec Antoine et Adrien en partant d'un constat assez simple, qui est le suivant. Les périodes grossesse, postpartum, premières années de vie des enfants, c'est des périodes qui sont assez particulières. C'est une période qui est, qui correspond à un grand enjeu de santé publique parce que beaucoup de choses se mettent en place au cours de ces périodes-là. Et puis parce que aussi c'est une période qui correspond à une grande période de vulnérabilité, notamment chez les femmes, pour qui c'est en particulier la plus grande période de vulnérabilité psychique. Donc c'est une période qui est assez sensible, qui est structurante, au cours de laquelle les parents et futurs parents se posent énormément de questions, mais pour laquelle, en fait, ce qu'on constate, c'est que la médecine de ville telle qu'elle est organisée et Internet dans l'information qu'ils proposent ne permettent pas de répondre aux nombreux questionnements des parents. Et donc, toute l'idée, ça a été de se dire, bah, comment est-ce qu'on peut utiliser le digital pour apporter un complément utile aux parents et futurs parents? Quand je dis complément, c'est en complément du suivi de grossesse, du suivi pédiatrique, pour qu'il y ait une sorte de relais santé entre les consultations, un soutien à la fois digital et professionnel pour les parents et futurs parents dans cette période. J'ai lancé un des associés avec lequel j'ai lancé May est mon mari et aussi le père de mes enfants, donc ça n'est pas pour rien dans l'histoire, parce qu'évidemment, à l'initiative, au moment de lancer May, on avait déjà un enfant, et donc le constat qu'on pouvait faire autour de nous nous parlait, puisqu'on était nous-mêmes concernés. Et en fait, ce qui se passe à l'époque, c'est qu'il se trouve que justement ma belle-mère est médecin, et donc je savais ce que ça voulait dire d'avoir un professionnel de santé dans la poche, à portée de main, qui puisse m'apporter des réponses à la fois fiables et bienveillantes. Et donc je pouvais mesurer en fait ce que ça pouvait apporter en termes de confiance au quotidien en tant que parent. Donc ça a été une des sources du projet. Travailler avec son mari au quotidien, c'est, je pense, pour le projet, une chance à différents égards, notamment parce que trouver un binôme avec qui ça fonctionne bien, c'est pas si simple et on voit beaucoup d'aventures entrepreneuriales dans lesquelles ça peut être un des défis. Et c'est vrai que quand on se connaît déjà bien par ailleurs, il y a des choses qui se mettent en place probablement beaucoup plus facilement, une communication qui est facilitée, une célérité aussi voilà, de compréhension qui, je pense, a été assez bénéfique au projet. Et puis, autre chose aussi qui est importante, c'est que on est tous les deux engagés et donc je pense qu'on vient pas. Je dis ça parce que je pense que quand on est le conjoint d'un entrepreneur, c'est pas toujours simple parce que la vie d'un entrepreneur, c'est très chargé. On travaille beaucoup et c'est pas forcément simple pour la personne qui est en face. Et donc, le fait là de pouvoir avoir quelqu'un qui comprend ça, qui le vit aussi, c'est, je pense, très soutenant. Après, le côté plus difficile, c'est qu'il faut malgré tout réussir parfois à arrêter de travailler justement et à faire avoir aussi à pas tout le temps embarquer le pro à la maison. J'y arrive pas encore très bien, mais en tout cas, ouais, c'est plutôt ça, je pense, la difficulté. Alors, May, c'est une équipe de 80 sages-femmes, médecins, infirmières puéricultrices qui accompagnent les parents et futurs parents au travers d'une application mobile. Donc, ça se traduit de la façon suivante. Sur cette application, les parents, ils ont accès à plusieurs choses. Déjà, ils ont accès à du contenu santé qui est validé, qui est fait par des professionnels de santé et qui a aussi pour spécificité d'être poussé de façon personnalisée. Parce que sur nos sujets, c'est pas tant l'existence de l'information qui est plutôt très abondante, mais c'est vraiment avoir une info fiable et au bon moment. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Deuxième chose auxquelles les parents ont accès sur notre application sont des outils de suivi de santé. Donc ça commence au cycle menstruel féminin, au moment où on a envie d'avoir un enfant, on commence à vouloir suivre quelles sont les périodes les plus propices, par exemple. Et ça va aller jusqu'à des outils autour de la croissance de l'enfant, du suivi du sommeil, etc. Et troisième chose, les parents ont, et je dirais que c'est surtout pour ça qu'ils utilisent May, accès à une messagerie qui leur permet de poser toutes leurs questions tous les jours de 8h à 22h à notre équipe de soins sur tout ce qui peut les interroger et on répond en moyenne en 10 minutes. Au travers de ce que je viens de présenter, on couvre des sujets à la fois de santé physique et de santé mentale, et aussi à la fois des sujets de santé de la femme et de santé de l'enfant, donc c'est extrêmement large. Les parents vont utiliser mais autant parce qu'il y a un symptôme de début de grossesse qui inquiète, que parce qu'on a, après l'accouchement, un moment où on se sent plus très bien psychologiquement et où on se sent même parfois très triste. Il faut savoir que la dépression du postpartum est un gros sujet dans l'absolu dans notre société, et aussi chez mes. Une femme sur six est concernée par cette question, et ça peut aller après jusqu'à des questionnements autour d'un enfant qui a une bronchiolite ou qui ne veut plus aller à l'école en maternelle. Donc voilà, on couvre des sujets qui sont extrêmement vastes et qui représentent en fait tous les enjeux autour de la périnatalité. Mais c'est accessible en partie gratuitement. Les conseils, il y a des conseils quotidiens, il y a tout un tas de contenus, des outils qui sont accessibles gratuitement. Et ensuite, ça fonctionne par abonnement, où il y a plusieurs formules, mais grosso modo jusqu'à 14 euros par mois pour accéder à la messagerie avec l'équipe de soins en illimité. Récemment, la décision dont je suis la plus fière, c'est celle d'avoir décidé de lancer May à l'étranger. On a ouvert il y a quelques semaines en Espagne et en Angleterre. Or, c'était une décision qui n'était pas forcément évidente, je dirais, parce que la santé, c'est un marché qui est quand même très localisé. Les réglementations ne sont pas les mêmes, la culture est différente, l'organisation du système de soins est différente, les recommandations médicales même sont différentes. Et donc, ouvrir à l'étranger, c'est pas juste déployer l'application sur un store, c'est un peu plus que ça. Et donc, il y avait quand même pour nous la question de se dire, est-ce que on continue à continuer sur le marché français en allant plus loin, etc. Ou est-ce qu'on déploie aussi ce projet à l'étranger ? C'est le choix qu'on a fait et j'en suis très fière parce que du coup, c'était pas forcément simple, qu'on a réussi à le faire en 6 mois et que aujourd'hui déjà, quelques semaines plus tard, on a plusieurs milliers d'utilisateurs dans chacun de ces pays. Donc, c'est une décision qui n'a pas été simple mais qu'on ne regrette pas aujourd'hui. Un grand défi, c'est May au global, et notamment la façon dont on a pensé May, parce que donc c'est un service de santé à travers une application mobile, et rien que quand je dis ça, je dirais que c'est y a un côté un peu prendre les sujets face nord. Une application mobile, déjà, c'est pas très simple comme projet, parce que télécharger une application, c'est toujours un peu plus compliqué que faire aller visiter un site web, etc. Et faire un service mobile qui soit sur la santé avec une approche consumer, donc se lancer en B2C avec un modèle économique qui repose sur le patient. Là aussi, c'était un sacré défi, et ça l'est toujours. C'est dans un pays comme la France notamment, se dire que la santé qui est perçue comme gratuite va être un service qui va être pour lequel les gens vont s'abonner, payer, c'était un vrai défi. Mais je crois qu'on a bien fait malgré tout de le faire comme ça, parce que à plusieurs titres. Déjà parce que quand on se dit que c'est l'utilisateur final qui va payer la solution, et nous on a choisi de faire ça dès le premier jour, c'est-à-dire qu'on a été live, notre produit, quand j'y repense à l'époque, il n'était pas très joli, mais il était ce qu'il était, il y avait quand même déjà cette messagerie avec les professionnels de santé, etc. Mais dès qu'on l'a lancé, on l'a rendu payant, et mine de rien, ça nous a beaucoup appris, et très vite, parce qu'on a la sanction des gens qui trouvent ça assez bien pour payer ou pas. Et donc ça nous a permis de faire évoluer le service très rapidement, de s'adapter aux besoins et de comprendre très finement quels étaient les besoins des patientes, des utilisatrices. Et ça nous a permis, je pense, ça nous a rendu plus intelligents dans le service qu'on proposait. Donc ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose, c'est que ça nous a permis de développer quelque chose qui est très différenciant pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à la frontière entre on est un service de santé médical. Enfin, chez May, ce sont des professionnels de santé. Toute la journée, on parle de projets de soins, de protocoles médicaux, on a un comité scientifique, etc. Donc, il y a un ADN médical très fort. Et en même temps, on a aussi cette jambe plus consumer, où on a aussi été du coup obligé de se développer sur comment acquérir des utilisateurs, avoir une approche marketing qui cible du coup les utilisateurs finaux, et avoir du coup aussi, je pense, cette façon de proposer le projet qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment considéré comme un partenaire santé digital de nos utilisateurs. Il y a une vraie adhésion. On a 40% de nos utilisateurs mensuels qui sont des utilisateurs quotidiens. Donc, mais c'est vraiment une app du quotidien pour les 100 000 utilisateurs actifs aujourd'hui de l'application. Et ça, c'est, je crois, parce qu'on a osé relever ce défi qu'on a pu développer cette expertise-là qui est en fait assez rare aujourd'hui sur le marché de la santé. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de monétiser dès le départ? Parce que en tant qu'entrepreneur, on a quand même la conviction que c'était le meilleur guide finalement pour développer le meilleur service, et je continue de croire ça. Pour autant, c'est vrai que nombreux étaient ceux au départ qui nous disaient qu'il fallait que ce service soit gratuit pour pouvoir, parce que justement c'était assez, parce que ça n'existe pas finalement, ce qu'on a créé chez May, ce partenaire santé digital des familles, c'est que ça reste, on est les seuls aujourd'hui à faire ça. Et quand on est les seuls à faire quelque chose, souvent, le conseil qu'on peut recevoir, c'est pour évangéliser, il faut que ce service soit d'abord accessible gratuitement et puis vous trouverez un modèle économique plus tard. Mais on avait envie de se confronter peut-être plus vite que ça au fait que ce service soit réellement utile pour nos utilisateurs. Après, dans notre environnement, la santé, le fait d'être payant, ça pose question, parce qu'évidemment, chez May, on est une entreprise à mission, on a à cœur de toucher très largement tous les parents en France et d'être un service qui est accessible, donc, et on ne veut surtout pas contribuer à une santé à deux vitesses, c'est un des enjeux pour nous. Et donc, en parallèle de ça, il faut aussi trouver des acteurs, des tiers qui vont venir payer ce service pour des publics pour qui le prix serait un frein. Ce qui est particulier ou ce qui est peut-être plus difficile dans l'environnement de la santé, c'est qu'effectivement il y a une perception que la santé est gratuite. Ce qui est, je précise, pas du tout le cas. La santé a évidemment un coût, c'est juste qu'on a la chance d'être dans un pays dans lequel la santé est prise en charge et c'est une chance fabuleuse. Ça me permet de faire une parenthèse sur le fait qu'il faut justement qu'on préserve ce système de santé. Et une des vocations de May, c'est de nous aider, c'est de contribuer à préserver le système de santé. Parmi les missions de May, on en a trois, soutenir la santé mentale des parents, favoriser la bonne santé des enfants. Et le troisième, c'est contribuer à désengorger le système de santé. Grâce à l'activité de May, en 2024, l'année dernière, on a évité 45 000 consultations en ville ou à l'hôpital. Ça représente 3,9 millions d'euros de coûts qui ont été évités à l'assurance maladie. Et le fait d'aider les parents et futurs parents à mieux solliciter le système de santé et à éviter certaines consultations dites inutiles, même si elles ne le sont jamais totalement, c'est aussi préserver notre système de santé. Ceci étant dit, c'est du coup difficile d'avoir des business models dans la santé parce qu'effectivement, il y a cette perception de gratuité. Ça l'est encore plus dans la prévention parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de modèle de prise en charge autour des services préventifs. En France, on est quand même un petit peu en retard sur ces sujets. Et donc, ça demande de la créativité, parfois des longs parcours du combattant. Et malheureusement aussi, il y a beaucoup de solutions qui seraient très intéressantes, mais qui meurent justement faute de trouver un modèle économique qui fonctionne. Chez May, on a levé des fonds à plusieurs reprises. Au tout début du projet, on a trouvé des business angels qui ont été très convaincus justement et par cette approche autour d'un service digital qui accompagne pendant cette période qui est si particulière et au cours de laquelle le besoin de santé est tellement important. Donc là, ce sont des individus du coup au démarrage qui ont fait confiance à May. Donc c'était Céline Lazorte, Thierry Petit, Alexis Bonnier. On a eu la chance d'avoir des grands entrepreneurs qui ont cru en notre projet et qui nous ont permis de financer ces premiers développements. Et ensuite, on a levé des fonds à deux reprises. Une première fois avec Racine Carrée, qui est un fonds à impact qui est co-géré par Serena Capital et Make Sense, qui du coup partage avec nous cette vision d'un entrepreneuriat à impact et qui est donc aligné à la fois en termes d'enjeux business et d'enjeux impact. Et puis, plus récemment, l'année dernière, on a levé 7 millions d'euros avec Euraseo et Ring Capital. Je dirais que c'était finalement, paradoxalement, plus facile en 2024 qu'à la levée précédente parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand même, et notamment à l'étranger, il y a des services digitaux autour du care, autour de la famille qui se développent. Et c'est une approche qui est justement peut-être qui était moins connue en France il y a quelques années, notamment du fait qu'on ait, et heureusement, un système de santé très présent. Mais je crois que les investisseurs voient ça se développer de plus en plus, notamment aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, et donc sont peut-être plus convaincus par une approche comme ça en France aujourd'hui. La rencontre qui a été déterminante au début du projet, au tout début du projet May, avant même que May n'existe, ça a été les premiers professionnels de santé de l'équipe, et notamment Emmanuel, notre infirmière référente, on a notre Emmanuel qui est la pédiatre référente, il y a des sages-femmes qui ont rejoint l'aventure ensuite. Et en fait, ça a été très déterminant parce que donc, je suis moi-même pas soignante, mes associés non plus. Ormeil, c'est un service de santé. On est vraiment une nouvelle offre de soins, quelque part. Ça a été très important de rencontrer ces personnes-là qui ont véritablement construit tout le projet de soins de May, qui est vraiment ce qu'aujourd'hui on exécute finalement au quotidien. On a eu la chance de faire les bonnes rencontres tout de suite, un peu par hasard d'ailleurs, mais je crois que ça se fait souvent comme ça aussi. C'est un peu le fruit de certaines rencontres qui permet ensuite de développer des beaux projets. Donc c'est des personnes qui sont toujours là aujourd'hui. Elles étaient là à l'époque même. Je les remercie beaucoup de nous avoir fait confiance quand on n'avait absolument rien et juste une idée et envie de construire ça avec des gens qui savent. Et elles nous ont fait confiance à l'époque, elles sont toujours là aujourd'hui. Et je crois que c'est aussi parce qu'on a fait les choses de cette manière qu'on a mis finalement les professionnels de santé vraiment au cœur du projet de May, qui sont très décisionnaires sur toute la partie médicale. C'est aussi ça qui a forgé notre crédibilité dans le temps, qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 5000 professionnels de santé libéraux en France qui recommandent May à leurs patients, parce qu'ils savent que c'est un service qui est fait par des professionnels de santé, qui est qualitatif. Donc voilà, c'est un cercle vertueux, mais au démarrage de tout ça, il y a vraiment cette rencontre avec ces deux Emmanuels notamment. La période qu'on appelle aujourd'hui assez communément la période des 1000 jours, donc en gros qui est un peu le dernier trimestre de grossesse et les deux premières années de vie d'un enfant, nous on en a une vision un peu élargie, c'est une période au cours de laquelle la prévention peut avoir un impact immense parce que beaucoup de choses se jouent à ce moment-là, notamment du point de vue du développement de l'enfant. Énormément de choses se mettent en place en cette période. Le rapport 1000 jours qui a été réalisé pour le gouvernement il y a quelques années le résumait assez bien en disant que cette période, elle contient les prémices de la santé et du bien-être tout au long de la vie. Donc en termes de prévention, s'il y a une période qu'il faut cibler, je pense que vraiment la période périnatale, c'est une période qui est clé du point de vue de l'enfant, du point de vue de la femme aussi, des deux parents, des coparents. Mais j'insiste sur la femme parce qu'il y a cet enjeu très fort autour de la santé mentale des femmes. La période périnatale est la première période de vulnérabilité psychique des femmes. On sait que si une femme fait une dépression au cours de cette période, elle a 50% de chances de refaire une dépression au cours de sa vie. Et c'est donc évidemment un sujet qui est extrêmement important et c'est un enjeu de santé publique sur lequel les choses avancent, mais sur lequel il reste énormément à faire. Et notamment parce qu'il y a encore beaucoup de tabous autour du fait que quand on est enceinte ou quand on a un enfant, on doit être heureuse, c'est quelque chose qui est censé combler, épanouir, et même si la parole a tendance à se libérer, individuellement, ça reste encore très difficile de dire qu'on vit pas bien cette période-là. Donc on a une fenêtre de tir extraordinaire en termes de prévention pendant cette période, et moi j'ai une conviction très forte que le digital est un outil fabuleux. Parce que le digital, il permet d'être au plus près, il permet d'être dans la poche, il permet de faire non pas les théories générales, mais vraiment des choses très personnalisées. Et donc, on le voit nous au quotidien, c'est un outil qui est extrêmement efficace. Je vous donne un exemple. Si je continue sur les enjeux de difficultés maternelles, donc de santé mentale périnatale, on le voit, les femmes se confient très rapidement parce qu'il y a une forme de distance quand même avec le fait qu'on est sur une application, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, on est sur son canapé un soir et on ose dire que ça ne va pas très bien et parce qu'en face, il y a des professionnels de santé qui sont extrêmement réceptifs, extrêmement à l'écoute, très formés sur ces questions et qui donc, on va dire, saisissent toutes les balles au bon et déroule toutes les pelotes de laine. Et donc chez May, on va évidemment pas faire une thérapie, c'est pas du tout notre rôle, mais par contre, faire un repérage précoce, écouter les femmes, les conseiller sur des petites choses qui peuvent être mises en place et surtout après les orienter vers la bonne prise en charge quand c'est nécessaire, c'est quelque chose qu'on fait très bien sur May et c'est véritablement un maillon manquant en fait quand on regarde la chaîne de soins aujourd'hui. Je l'explique pas tellement à vrai dire, mais disons que en tout cas ça a toujours été là. Mes premiers stages, mes premières expériences professionnelles, elles ont toujours été dans un environnement autour de l'impact social. Donc ça s'est traduit de différentes formes. J'ai travaillé sur les relations ONG-entreprise, j'ai travaillé dans l'humanitaire. Donc voilà, ça a été un fil conducteur. Je crois que c'est juste une question de personnalité et de qu'est-ce qui m'intéresse au quotidien. Le conseil que je donnerais, que je donne toujours d'ailleurs, c'est de faire, d'y aller. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus terrorisant et de paralysant finalement que d'avoir une idée, mais de se dire... ça paraît toujours très gros en fait quand on est en bas de la montagne et le sommet paraît toujours très loin. Et je trouve que... et c'est pareil après même dans des projets au sein de l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, ce qui marche, c'est de faire et donc de monter la première marche, même si elle est petite, d'écrire en fait un peu quelles vont être les différentes marches de l'escalier et de commencer par une petite marche et d'y aller, et d'y aller, et d'y aller. Et je crois qu'il y a que, voilà, être dans l'action, oser le faire, ne pas avoir peur de se planter, c'est probablement des meilleurs conseils que j'ai reçus et que du coup je partage. Pour moi, une bonne entrepreneuse, je trouve cette question difficile parce que je trouve que ça requiert, d'être une bonne entrepreneuse, ça requiert pas mal de choses. Mais il me semble que une des choses les plus importantes, c'est de savoir allier, et c'est pas forcément facile, un mélange d'écoute, parce que notamment, comme c'est mon cas, quand on se lance sur un sujet qui est assez nouveau, où le playbook n'est pas écrit, bah, ça veut dire accepter d'évoluer dans le chaos, dans des choses qui sont pas encore défini, pas encore bien balisé, et donc ça nécessite d'être très à l'écoute de tout pour pouvoir réajuster, faire évoluer rapidement son projet, pas s'entêter en fait forcément dans un truc qui paraissait être une bonne idée au départ, mais qui en agissant s'avère ne pas répondre exactement aux besoins. Donc il faut vraiment cette écoute-là, et en même temps, et du coup c'est un peu contradictoire, c'est ça qui est difficile, il faut savoir tenir bon. Parce que, encore une fois, dans un environnement mouvant, chaotique, on peut être amené à se trahir un peu, à se dire ah ben en fait ça a l'air pas mal par là, bon bah ok, peut-être que je vais aller, c'est peut-être mieux par là ou c'est peut-être mieux par là. Et en fait, je crois qu'il faut rester très aligné et tenir bon face aux investisseurs, face à son équipe qui parfois peut avoir des idées, face à plein de choses, enfin ça aussi à ses clients, parfois se dire bah, je vais sortir cette fonctionnalité parce que je crois que c'est une bonne idée. Et voilà, et donc c'est vraiment ce subtil mélange entre être très à l'écoute et en même temps savoir aussi refermer les écoutilles pour se faire confiance et faire avancer l'idée qui était le moteur original. Et y a un jeu d'équilibriste pour, je crois, être une bonne entrepreneuse.